Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 4 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, l'opposition réclame la démission du Premier ministre en réaction à la répression d'une marche interdite samedi par les forces de l'ordre.
En Côte d'Ivoire, l'opposition fustige la déclaration du président Alassane Ouattara qui n'exclut plus la possibilité d'un troisième mandat.
Au Congo-Brazzaville, le confrère Fortuna Ngualali en garde à vue, accusé d'avoir divulgué des propos tenus au cours d'une réunion secrète du PCT, le parti au pouvoir.
Une soixantaine de migrants ont perdu la vie pendant le week-end en mer Méditerranée, alors qu'ils essayaient de rejoindre l'Europe.
La Chine avertit qu'elle ne respectera aucun accord commercial avec les États-Unis si le président Donald Trump met à exécution ses menaces de taxes douanières.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, l'opposition demande la démission du Premier ministre après que les forces de l'ordre ont réprimé samedi une marche interdite à Bamako. L'opposition a dénombré au cours d'une conférence de presse une trentaine de blessés, signalé des dégâts matériels importants, dont le saccage du siège du parti ADP Maliba, sur lequel des gaz lacrymogènes ont été jetés. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
La salle de conférence de la Maison de la Presse du Mali a refusé du monde, car en plus des blessés rétablis de la marche du 2, d'autres curieux étaient venus écouter le message des leaders de l'opposition malienne. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition.
C'est l'instauration d'une violence préélectorale et qui risque d'être une violence post-électorale. Je crois que c'est un début de quelque chose. Nous mettons en garde le gouvernement contre de telles pratiques. Nous avons demandé le dialogue depuis près de 5 ans. Je crois qu'il faut venir au dialogue pour régler les problèmes.
La coalition de la société civile et l'opposition, après avoir fait le bilan de la marche réprimée, exigent la démission du Premier ministre. Pour eux, il est le seul responsable de l'échec de leur manifestation pacifique.
Et l'opposition malienne s'est caractérisée par la non-violence. Nous avons sorti entre 500 000 et 1 million de personnes suivant les circonstances. Nous n'avons pas cassé une branche d'arbre, nous n'avons pas cassé un feu rouge, nous n'avons pas brûlé une voiture. Nous ne comprenons pas l'acharnement du gouvernement. La violence inouïe qui s'est déployée le samedi 2 juin contre des manifestants au menu.
Après l'échec de la marche du 2, les initiateurs comptent descendre dans les rues de Bamako ce vendredi 8 juin 2018. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition a qualifié hier à Abidjan d'anticonstitutionnel, d'inacceptable et d'irréalisable l'idée d'un troisième mandat pour le président Alassane Ouattara, dont le deuxième s'achève en 2020. Elle dit y voir une provocation. Dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique, M. Ouattara a déclaré qu'il n'excluait pas un troisième mandat alors que la bataille pour sa succession a déjà commencé. La nouvelle constitution m'autorise à faire deux mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes, a souligné M. Ouattara.
Au Congo-Brazzaville, un journaliste accusé par un député de la majorité d'avoir divulgué des déclarations au cours d'une réunion à huis clos du PCT, le parti au pouvoir, a été interpellé et placé en garde à vue, a appris hier l'AFP de sources concordantes. Le journaliste Fortuna Ngualali, âgé de 36 ans, évoluant à la chaîne de télévision privée Vox TV, est en garde à vue à la gendarmerie de Bakongo depuis samedi, a déclaré sous couvert d'anonymat un responsable de cette télévision. Monsieur Ngualali rejette toutes ces accusations en disant qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, a indiqué ce responsable de Vox TV. Une enquête a été ouverte à ce sujet, a confirmé la gendarmerie.
Au Nigeria, la police a invité hier le président du Sénat, Bukola Saraki, a venu répondre aux accusations portées contre lui par un gang responsable d'une série de braquages qui ont coûté la vie à 33 personnes. Ce gang affirme avoir agi sur ses ordres. Dans un communiqué, M. Saraki, qui est déjà accusé de corruption, dit qu'il ira à cette invitation de la police, tout en soulignant qu'il n'avait aucun lien avec ces braquages. Il a en revanche accusé le chef de la police nigériane de vouloir le piéger.
Toujours au Nigeria, au moins 13 personnes ont été tuées dimanche au cours de deux attaques distinctes dans l'état central de Benue, une zone en proie à de violents affrontements entre agriculteurs essentiellement de confession chrétienne et éleveurs peuls nomades, majoritairement musulmans. Lors de la première de ces attaques, survenues pendant la nuit de samedi à dimanche, des hommes armés soupçonnés d'être des éleveurs ont fait irruption dans le village de Tseado, tuant 7 personnes, dont des femmes et des enfants, et enlevant une femme enceinte. Et dans la seconde attaque, toujours dans l'état de Benue, 6 personnes ont été tuées hier dans la ville d'Otokpo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une 60aine de migrants ont perdu la vie en mer Méditerranée pendant le week-end alors qu'ils essayaient de rejoindre l'Europe. Gaby Dorsil nous en dit plus.
Près d'une 60aine de migrants sont morts depuis samedi soir au large de la Tunisie et de la Turquie en tentant de rejoindre l'Europe. Un bilan provisoire du gouvernement tunisien fait état de 48 corps repêchés et 68 personnes secourues dans le sud de la Tunisie. L'agence Reuters précise que l'embarcation a fait naufrage près de la station balnéaire de Kerkena, entraînant l'accident le plus grave depuis plusieurs années, impliquant des migrants. Le ministère de la Défense indique que les victimes étaient des citoyens tunisiens et d'autres ressortissants africains. Les trafiquants d'êtres humains utilisent de plus en plus la Tunisie comme rampe de lancement pour les migrants en route vers l'Europe, au moment où les gardes-côtes de la Libye, aidés par les groupes armés, renforcent les contrôles. Parallèlement, 9 Syriens, dont 7 enfants, ont péri hier dimanche, après que leur vedette a fait naufrage au large des côtes turques, a annoncé le service des gardes-côtes de la Turquie. 6 passagers ont été secourus. Au large des côtes espagnoles, les services de secours ont pu sauver 240 migrants pendant le week-end.
À noter aussi qu'en Italie, le nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, le très populaire patron de l'extrême droite, a averti hier que son pays ne pouvait pas être le camp de réfugiés de l'Europe. Il a promis toutefois du bon sens pour éviter les naufrages et limiter les arrivées de migrants. Samedi, le chef de la Ligue avait affirmé, je cite, « Le bon temps pour les clandestins est fini, préparez-vous à faire les valises ». Fin de citation.
Mise en garde de la Chine aux États-Unis, tout accord commercial entre les deux pays sera déclaré nul et non avenu si le président Donald Trump met à exécution ses menaces d'imposer des taxes douanières punitives aux produits chinois. Précision de Jean-Roger Bion.
Le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross et le vice-premier ministre chinois Liu He ont mis fin à une nouvelle série de négociations visant à régler un différend commercial en cours. Pékin s'est engagé à acheter davantage de produits américains pour réduire son excédent commercial, lequel a atteint 375 milliards de dollars l'année dernière. Aucune déclaration commune n'a été publiée, aucun détail n'a filtré de l'un ou l'autre camp. Le journal chinois Global Times a soutenu dans un éditorial que Washington devrait choisir, et nous citons, entre l'imposition de tarifs et l'expansion de ses exportations. Les États-Unis ne peuvent pas avoir les deux, fin de citation. Les envoyés chinois avaient promis, après la dernière réunion de haut niveau tenue à Washington, à la mi-mai, d'acheter davantage de produits agricoles et de produits énergétiques américains. La Maison-Blanche a renouvelé une menace la semaine dernière d'augmenter les droits sur 50 milliards de dollars de produits chinois liés à la technologie. Pékin promet de riposter.
Le président syrien Bachar al-Assad a l'intention de se rendre en Corée du Nord pour y rencontrer le dirigeant de ce pays, Kim Jong-un, a annoncé hier l'agence officielle nord-coréenne. Ce qui ferait de M. Assad le premier chef d'État à être reçu par M. Kim dans son pays reclus. Cette annonce intervient alors que le président américain Donald Trump a confirmé vendredi la tenue à Singapour le 12 juin de son sommet historique avec Kim Jong-un, organisé après une intense activité diplomatique.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou entame aujourd'hui en Allemagne une tournée de 3 jours au cours de laquelle il espère convaincre les Européens, déterminés jusqu'ici à sauver l'accord sur le nucléaire iranien, d'infléchir leur position. Farouche adversaire de cet accord nucléaire et du régime de Téhéran, M. Netanyahou doit rencontrer dans l'après-midi la chancelière Angela Merkel avant de tenir avec elle une conférence de presse. Il fera ensuite la même chose mardi à Paris avec le président français Emmanuel Macron, puis mercredi avec la première ministre britannique Theresa May. Ces 3 dirigeants défendent résolument l'accord malgré le retrait américain annoncé le 8 mai et œuvrent de concert sur le sujet avec la Russie et la Chine, les 2 autres signataires du texte.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le G7 Finance s'est achevé samedi au Canada sur une inquiétude unanime et une déception en raison de la décision des États-Unis d'intensifier leur offensive commerciale sur leurs alliés et partenaires commerciaux. Le ministre canadien des Finances a appelé à faire preuve de bon sens lors du sommet des chefs d'État cette semaine au Québec. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a de son côté exhorté Washington à envoyer immédiatement des signaux positifs pour éviter une guerre commerciale. Les discussions du G7 Finance ont été entièrement éclipsés par le spectre de cet éventuel conflit commercial. La Chine consolide sa place de leader des partenaires commerciaux du Gabon sur les 5 dernières années. Le volume d'échanges dépasse 1 milliards de francs CFA en 2017. La France est en seconde position avec près de 459 milliards de francs CFA. La balance commerciale entre la Chine et le Gabon a affiché un excédent de plus de 762 milliards de francs CFA en raison de la hausse des ventes de pétrole. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Grande-Bretagne ont atteint 447 millions de livres sterling au cours du premier trimestre de 2018. L'intensification de ces échanges intervient dans un contexte de renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, favorisé par la perspective du Brexit.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec le tournoi de la COSAFA qui se déroule actuellement en Afrique du Sud.
Oui, avec les quarts de finale et hier, Madagascar et le Zimbabwe se sont qualifiés à l'issue de la séance des tirs au but, respectivement contre le pays hôte, l'Afrique du Sud et le Botswana. Notons que la veille, la Zambie a éliminé la Namibie également au tir au but 4-3, 0-0 après le temps réglementaire et puis le Lesotho a écarté le Swaziland 1-0. En demi-finale, on aura les confrontations Zambie-Lesotho et Madagascar-Zimbabwe.
Mondial 2026, le Cameroun est derrière le Maroc.
À l'approche du scrutin, le royaume chérifien espère faire le plein de voix, notamment en Afrique. Après l'Algérie, la Guinée-Bissau ou encore la RDC Congo, le Cameroun vient à son tour d'apporter son soutien officiel aux Marocains à travers un communiqué rendu public par la Fédération camerounaise de football. À noter que le Maroc fera face au trio États-Unis-Mexique-Canada pour l'organisation de ce mondial 2026. Le vote aura donc lieu le 13 juin prochain devant le congrès de la FIFA.
Élisée, on parle cette fois du mondial 2018, c'est dans 10 jours en Russie et les sélections africaines qualifiées continuent leurs préparatifs.
Effectivement, Idrissa et la Tunisie poursuivent sa préparation au Portugal avant d'affronter l'Angleterre pour leur premier match de groupe au Mondial 2018. Les Aigles de Carthage termineront leur préparation en affrontant l'Espagne. Après l'Iran, le Costa Rica, le Portugal et la Turquie, les joueurs de Nabil Maloul vont essayer de faire un bon résultat contre la Roja à Krasnodar en Russie. De son côté, le Nigeria qui se prépare à Londres a été battu 2-1 par l'Angleterre. C'est la deuxième contre-performance des Super Eagles après leur match nul 1-1 face à la RDC. Ils poursuivent leur préparation en Autriche où ils affronteront la République tchèque. Signalons que la Croatie, adversaire du Nigeria au Mondial, a été battue hier par le Brésil, score 2-0.
Football toujours, préparatif pour la CAN 2019, le Niger sort vainqueur de son tournoi.
Oui, et les éliminatoires vont reprendre en septembre prochain avec la deuxième journée qui verra le Niger affronter l'Égypte. Et pour bien se préparer, le MENA a organisé un tournoi amical à Niamey. Après un match nul d'entrée face à la Centrafrique, l'équipe entraînée par François Zawi a signé une belle victoire de 3-1 face à l'Ouganda pour terminer en tête au classement.
Cyclisme avec l'épilogue du Tour du Cameroun.
Et c'est Bonaventure Uwizeyimana qui termine en jaune. Malgré les intempéries, la 8e et dernière étape de ce Tour du Cameroun s'est courue hier entre Bafia et Yaoundé. Cette ultime épreuve a été remportée par le Camerounais Ghislain Sikandi. Mais le maillot jaune est définitivement resté sur les épaules du coureur rwandais. Bonaventure Uwizeyimana. Et puis la NBA pour finir, Idrissa. On a eu cette nuit le match numéro 2 de la finale.
Les tenants du titre et grands favoris, les Golden State Warriors, ont doublé la mise à Cleveland dans la finale NBA en dominant le match numéro 2, 122-103, dimanche devant leur public. Ils mènent les Cavaliers de LeBron James 2-0 avant les deux prochains matchs mercredi et vendredi à Cleveland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons à nos dossiers du jour. Retour sur le Mali, où la marche pacifique non autorisée de la coalition pour l'alternance et le changement de samedi dernier a été réprimée par les forces de l'ordre. On a signalé plusieurs blessés. Point de presse des organisateurs hier à Bamako, compte rendu de Kassim Traoré.
Tôt le samedi matin, l'itinéraire de la marche pacifique était bloqué par les forces de l'ordre. C'est ainsi que certains organisateurs et marcheurs ont rallié les sièges du parti ADP Maliba. Là aussi, les policiers, gendarmes et gardes nationaux étaient en nombre. Ils ont empêché tout mouvement devant cet établissement.
Démocratie malienne. Le Mali est en démocratie et aujourd'hui la démocratie est en panne au Mali. C'est une déception du pouvoir d'Ibekat. Nous devons marcher pour une nouvelle démocratie au Mali, en République du Mali.
Juste le droit de marcher pour une élection libre, transparente. Aujourd'hui, juste ça. Mais au lieu de ça, on est engagé. On va affronter notre propre politique.
À la suite des incompréhensions et échauffourées, les forces de l'ordre ont largué plusieurs gaz lacrymogènes sur le bâtiment qu'occupaient les marcheurs et les leaders de l'opposition. De la jeunesse IRD.
Je suis écœuré par rapport à ce comportement de l'État. Ça montre que cet État est irresponsable. Ça montre que cet État ne connaît rien dans nos institutions. Ils nous ont empêchés de faire une marche qui est démocratique. Une marche démocratique ne doit pas être réprimée. Pour le moment, il y a beaucoup de blessés. Il y avait même la protection civile qui les a amenés au niveau de l'hôpital Gabriel Touré pour les premiers soins.
La police aussi a fait le point de cette marche en sa manière. Siaka Sidibé, directeur régional de la police du district de Bamako.
Les encadreurs étaient là à prier les manifestants de ne pas aller à cette marche. Ils ont été lapidés. Comment voulez-vous que vos forces de sécurité soient chassées d'un lieu où ils ont mis barrage? Je ne pense pas que cela soit acceptable. Donnez le minimum de crédit à vos forces de sécurité. Nous, nos agents, certains ont été blessés.
Les arguments de la police sont rejetés en bloc par Fatmata Maïga qui a inhalé du gaz lacrymogène.
Nous étions dans une optique de marcher de façon pacifique et nous avons respecté la consigne qui était de nous recentrer au siège de l'ADP Maliba puisqu'en face il y avait un cordon qui nous empêchait de suivre l'itinéraire prévu par la marche. Les forces de l'ordre qui nous regardaient en chaîne faïence ont commencé à tirer factuellement au moins une cinquantaine de bombes lacrymogènes et d'autres projectiles qui sont tombés pour créer. J'ai vu des femmes blessées, j'ai eu quelqu'un qui a pris malheureusement une bombe lacrymogène qui n'avait pas le réflexe et qui nous a explosé pratiquement au visage et j'ai dû attendre 30 minutes pour recouvrir l'usage de mes yeux.
Soumaïla Cissé, Modibo Sidibé, Mohamed Ali Bachidi, Honorable Amadou Thams ont rendu visite aux blessés au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, Cheblin Dramé, président du Parina.
Partout dans le monde, les gouvernements veillent à ce que l'ordre ne soit pas troublé. Mais au Mali, c'est le gouvernement qui provoque les troubles à l'ordre public. Dieu seul sait pourquoi ils font ça. Ils ont leurs arrière-pensées. Les blessés, nous sommes venus leur exprimer notre solidarité, notre soutien. Ce sont nos camarades, ce sont nos amis. Mais à tous les autres qui ont manifesté à Bamako, nous leur disons que le combat continue, que la lutte continue.
Avec l'échec de cette marche, la situation politique se dégrade. Alors que le Mali doit organiser l'élection présidentielle dans 2 mois. L'opposition campe sur sa position en demandant la démission du Premier ministre. Elle veut aussi marcher ce vendredi 8 juin 2018. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, de janvier 2017 à mai 2018, environ 85 enfants ont été soit kidnappés, soit rescapés d'une tentative d'enlèvement au sud Kivu. Il s'agit là d'un phénomène qui prend de l'ampleur depuis le début de l'année 2018. Reportage de notre correspondant au sud Kivu, Ernest Muhero.
Le kidnapping d'enfants de plus en plus rapporté au sud Kivu perturbe l'opinion locale. Tout a commencé sous forme d'une rumeur en début d'année 2017 et à ces jours, plusieurs langues se délient face à ces phénomènes dont on ignore les mobiles.
Nous étions en train de jouer, du coup un papa est venu nous dire qu'il va nous acheter des beignets. Quand on l'a indiqué là où on en achetait habituellement dans le quartier, il nous a dit que les beignets de là sont de mauvaise qualité, qu'on le suive. On l'a suivi, la route était longue. Centre. Quand il nous a demandé de monter dans un véhicule, on a eu peur, on s'est mis à pleurer, puis des passants l'ont arrêté.
Bénédicte Mungwalisa a 7 ans. Elle et trois autres enfants d'un voisin ont été kidnappés en pleine journée en commune d'Ibanda à Bukavu par un inconnu. Ils ont été retrouvés en début de soirée à près de 3 km de leur domicile. Madame Odile Fora, mère de Bénédicte, décrit la panique qui a secoué sa famille quand elle n'arrivait plus à localiser sa fillette.
Nous étions assis à la maison. Vers 17h, on cherche Bénédicte sans la trouver. À 18h, je suis prise de panique. Et c'est toute la famille et le voisinage qui se déploient dans le quartier pour la trouver. Désespéré, vers 22h, le chef de notre cellule reçoit un coup de fil lui annonçant qu'un kidnappeur avec 4 enfants vient d'être arrêté. Vraiment, j'appelle les parents à plus de vigilance ces derniers temps et aux écoles de ne pas chasser les enfants pour irrégularité de scolarité, car c'est les exposer à un kidnapping.
Dans une autre commune de Bukavu, la commune de Kadutu, le chef de quartier Kasali, Marcelin Ramazani, évoque un autre cas survenu le 19 mai, où cette fois un enfant de 4 ans a été enlevé par son voisin.
Une famille m'a appelé en me disant qu'on vient d'enlever leur enfant. Alors, nous avons entré en contact. Il m'a dit qu'il est avec l'enfant, mais que je le trouve au niveau du quartier industriel. Arrivé là-bas, il m'a dit non, nous ne sommes plus là, nous sommes maintenant à Nyantende.
Face à la menace de la population d'incendier la maison de la famille du ravisseur, celui-ci a orienté le chef des quartiers vers l'endroit où il a caché l'enfant à plus de 7 km de son domicile. Josué Blaise Mukubwa est chercheur indépendant et répondant provincial au Sud-Kivu de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO. Il parle d'environ 85 enfants kidnappés ou rescapés d'une tentative de kidnapping, surtout dans les parties littorales du Sud-Kivu.
Nous avions fait une petite enquête préliminaire et nous avions pu constater qu'il y a l'ampleur. Pour nous, on est en train de vouloir qu'il y ait une enquête approfondie afin de savoir qui et pour qui et comment ils font ça.
De façon silencieuse, cette situation inconfortable est vécue par d'autres familles, aussi bien dans la ville de Bukavu que dans les territoires de la province. Si certains ont eu la chance de retrouver leur progéniture vivante, pour d'autres par contre, elles sont soit portées disparues, soit trouvées mortes et amputées de certains organes, selon les chercheurs Blaise Mukubwa. Des sources proches de la Direction générale des migrations, nous apprenons que des mesures de contrôle ont été renforcées. Désormais, lorsqu'une personne veut traverser la frontière congolaise avec un enfant, elle doit présenter une lettre parentale notariée, un extrait d'acte de naissance et introduire une demande d'autorisation de sortie pour enfants. Les attestations de naissance facilement falsifiables ne sont plus acceptées. Ernest Mouero pour VOA Afrique, Bukavu.
Au Congo-Brazzaville, les jeunes utilisent le slam, un genre littéraire similaire à la poésie, pour dénoncer des maux dont souffre la société. Nombre d'entre eux n'hésitent pas à s'inspirer des faits politiques de ces dernières années pour dire leur agacement. Correspondance de Brazzaville, Arsène Séverin.
Sache qu'ici, les choses vont de mal en pis, de méritocratie à empire, et c'est interdit de le dire, prohibé de l'écrire.
C'est depuis les événements liés en 2015 au changement de la constitution que ces slams sont de plus en plus déclamés au Congo. Plus de rythme, de textes engagés et intelligents, les slams sont devenus la nouvelle arme de communication pour une bonne partie de la jeunesse congolaise. Inscrit en master d'économie, le slameur Paterne Bouangakaba, connu sous le prête-nom de Black Panther, a écrit une lettre au recteur de l'université Marien Gouabier, lui demandant d'humaniser les conditions d'études dans cet établissement public.
Récemment, j'étais à la grande bibliothèque universitaire, il y a un étudiant qui m'a dit que lettre au recteur était la sonnerie de son téléphone. Donc ça m'a beaucoup touché, donc ça montre à quel point il a été justement marqué par ce texte-là, parce que ce sont les réalités qu'il traverse et les réalités qu'il vit au quotidien à l'université.
Plus direct et allant puiser son inspiration dans l'écosystème politique, Gershom Gobwang, dit guerre de mots, n'hésite pas à aller ressusciter l'affaire des disparus du beach. Pour cet artiste, la seule façon de montrer qu'il n'y a pas eu de disparus, c'est de les présenter à leurs parents.
Autour d'elle, les musiques se kiffent et se critiquent, même les discours de « Oh, bâtisseur infatigable ». Tu veux t'éterniser au pouvoir et nous, on est pour l'alternance, donc viens qu'on boive une bière et qu'on en parle. Que la seule manière de prouver qu'il n'y a pas eu de disparus du beach, c'est de les voir apparaître. Lazare, sort de ce fleuve.
Marus Kamukenge est l'étoile montante du slam congolais. Fille d'une vingtaine d'années environ, elle voyage de capitale en capitale en Afrique pour montrer à la jeunesse cette nouvelle forme d'expression.
Je ne me prends pas comme étant un opposant du pouvoir en place ou une personne qui bosse avec le pouvoir en place. Moi, je suis artiste et je suis libre de dire ce que je pense réellement. Donc, je n'ai pas à m'emprisonner dans une certaine idéologie politique.
Le vice-coordonnateur du mouvement, le ras-le-bol, Charlène Kinoani, estime que ces jeunes n'ont de différent avec eux que la scène des déclamations de leur slam.
Ces jeunes-là, pour nous, ce sont des ras-le-bolistes. D'ailleurs, je vais signifier que le mouvement ras-le-bol est créé par les grands slameurs de ce pays. La révolution aujourd'hui, avec le stylo, le papier, ça passe.
Pour le critique littéraire Florent Solinzaou, président du PEN Centre Congo-Brazzaville, ces jeunes artistes, qu'on ne peut pas facilement classer dans les genres littéraires, s'inspirent des faits de la société et finissent bien souvent dans les mouvements de contestation.
L'écrivain ne vient pas de notre planète. La première source d'inspiration du slameur, c'est la société dans laquelle il vit. Et puis, quand il le déclame avec tellement de violence que cette violence-là s'explique, justifie même l'engagement.
Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
L'Agence américaine pour le développement international veut contribuer à l'éradication du VIH-SIDA en Afrique de l'Ouest en exécutant sur une période de 5 ans, avec des ONG, un projet lancé le 24 mai dernier, Ending AIDS in West Africa, ou mettre fin au SIDA en Afrique de l'Ouest, de Lomé, notre correspondante Kay Lawson.
Le taux de prévalence du VIH-SIDA au sein de la communauté des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et des professionnels de sexe varie entre 10 et 20% selon les pays en Afrique de l'Ouest. Dans une région où le taux de prévalence de la population en général n'excède pas 5%, il y a de quoi focaliser l'attention sur ces deux couches vulnérables afin de mettre fin au VIH-SIDA. Dr Hugues Guidigui, conseiller principal en matière de VIH-SIDA à l'USAID Afrique de l'Ouest.
Les hommes, un des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe, ces populations sont les plus touchées, c'est des victimes. Il y a les stigmatisations, les discriminations qui font qu'ils sont obligés de se cacher. Ils n'arrivent pas à avoir facilement accès aux soins, ce qui amplifie l'effet de l'infection en leur sein. La prévalence chez eux est très élevée, donc si nous voulons réellement avoir les résultats, il faut que nécessairement qu'on puisse augmenter nos performances au sein de ces populations-là. Parce que la population générale a accès aux services, mais les populations clés ont moins accès aux services.
Dans la corporation des professionnels de sexe au Togo, le projet Ending AIDS in West Africa EWA, ou mettre fin au SIDA en Afrique de l'Ouest, est bien accueilli avec des attentes précises. Honorine Tellet-Mincent, présidente de l'association Femmes Amazon, à FAS Togo.
Nous, les PS, nous sommes exposés au VIH. Donc, nous voulons la réussite de ce projet au niveau de la communauté. Les PVVIH souffrent trop. Nous voulons que ce EWA fournisse une kit nutritionnelle pour les PVVIH pour les aider à prendre leur ARV. Donc la plupart de nous qui sont sur ARV donc n'arrivent pas à prendre régulièrement leurs médicaments parce que des fois il n'y a rien à manger et en plus nous voulons que EWA renforce notre capacité à plaidoyer.
Le projet EWA prévoit la mise en place des centres d'excellence que les populations clés peuvent visiter en toute discrétion. Des centres qui viennent appuyer ceux déjà existants et qui facilitent la vie aux homosexuels, comme le dit à VOA Afrique cette transgenre.
On a beaucoup de centres de santé, centres médicaux déjà qui connaissent un peu c'est quoi le truc. Donc j'ai plus besoin d'aller voir un docteur hétéro pour lui montrer que j'avais une infection, non. Mais la discrimination et puis la stigmatisation pour les homosexuels comme nous, ça ne peut jamais finir.
Et EWA veut aussi contribuer à l'atteinte des objectifs 90-90-90 de l'ONU-SIDA à l'horizon 2020, précise Dr Hugues Guidigui.
Le premier 90, c'est que d'ici 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut sérologique. Deuxième objectif, c'est que 90% de ceux qui connaissent leur statut sérologique doivent être mis sous traitement HIV. Et le dernier 90, c'est que 90% de ceux qui sont mis sous traitement HIV devaient avoir un HIV viral indétectable. Donc quelqu'un qui a un HIV viral indétectable, non seulement il vit bien, mais il n'arrive plus à transmettre l'infection à ses partenaires, ce qui permet à long terme de mettre fin au VIH-SIDA.
Le projet Mettre fin au SIDA en Afrique de l'Ouest sera exécuté dans 6 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. Pour la première année, le Togo et le Burkina Faso sont les pays pilotes. Kailasan, Lomé, VOA Afrique. We'll be right back.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.